Chers auditeurs, sacré évêque à Paris, le 14 novembre 1802, Monseigneur Loyson se mit aussitôt en route pour rejoindre son diocèse. Il devait certainement être conscient des difficultés qui l'attendaient là-bas, difficultés matérielles et spirituelles accumulées au cours des 10 années d'agitation, de bouleversement et même de désordre. Ce qui devait sans doute susciter le plus son inquiétude et ses craintes, c'était l'état du clergé qu'il trouverait là-bas. Un clergé livré à lui-même depuis plusieurs années, ayant affronté sans aide aucune des situations souvent périlleuses et qui, comme partout en France, restait divisé entre constitutionnel et réfractaire. Les Hautes-Pyrénées et le Béarn avaient largement accueilli les changements apportés par la Révolution. Le Pays basque s'y était montré assez allergique. Comment allait-on y recevoir un évêque qui avait, comme curé, prêté tous les serments républicains et même abdiqué ses fonctions? Monseigneur Loyson arriva à Mont-de-Marsan le 11 décembre 1802. Dès les premiers contacts avec ses prêtres, il manifesta son tempérament conciliant et son désir d'accueillir avec la même bonté paternelle tous ses enfants, judeurs ou réfractaires, sans exception de personne. Il y eut, raconte un chroniqueur de l'époque, une réunion devant l'évêque entre des prêtres divisés d'opinion, mais elle se termina dans la paix et l'acceptation réciproque. L'évêque décida que pour célébrer cette réconciliation, on dirait le lendemain une messe solennelle à laquelle il assisterait lui-même avec tous les prêtres. De là, Monseigneur Loyson partit pour Dax, où il arriva le 18 décembre. Cette première visite à l'ancien évêché ne fut pas aussi paisible que celle de Mont-de-Marsan. Les prêtres réfractaires exigeaient de la part des judeurs une rétractation explicite, ce que refusaient ces derniers. L'intransigeance des premiers empêcha une franche réconciliation malgré des prodiges de diplomatie de la part de l'abbé Lamarque, un prêtre de l'ancien diocèse de Dax, non-judeur, et qui exerçait une autorité morale certaine sur le clergé landais. Monseigneur Loyson devait en faire par la suite son vicaire général. Après Dax, l'évêque s'arrêta à Saint-Jour-de-Marenne, où l'attendait un grand concours d'ecclésiastiques. La rencontre avec l'abbé Duplantier, curé assermenté de cette paroisse et à qui avait été offert en 1791 l'évêché constitutionnel des Landes, fut des plus cordiales. Et après cette réconciliation, le nouvel évêque prit le chemin de Bayonne. Il y parvint dans la soirée du 20 décembre 1802. Comme il l'écrira au ministre des cultes Portalis, il s'y arrêta le temps nécessaire pour recevoir dans sa communion les prêtres de ce ci-devant diocèse. En fait, il y demeura jusqu'au 12 janvier. Monseigneur Loyson prit possession de son siège le 25 décembre, le jour de la Noël, au cours d'une cérémonie qui se déroula à la cathédrale, où s'était rassemblée, nous dit un témoin, une foule immense. On a retenu également que la cérémonie était rehaussée par la présence des corps constitués. À leur tête se trouvait le préfet des Basses-Pyrénées, M. de Castellane, qui, le premier, harangua le nouvel évêque. L'archevêque de Toulouse, dont dépendait l'évêché de Bayonne, avait délégué pour présider l'installation M. l'abbé d'Alincourt, l'ancien vicaire général de Monseigneur de Villevielle. Après les rites traditionnels de la prise de possession, Monseigneur Loison présida la messe pontificale durant laquelle fut chantée solennellement la prière pour la République et pour les consuls, « Domine salvam fac republicam, domine salvos fac consules ». À l'issue de la cérémonie, un banquet offert par le préfet devait réunir l'évêque, les principales autorités civiles et militaires et de nombreux ecclésiastiques. Des toasts furent portés à l'évêque, aux diverses personnalités présentes et enfin au préfet et à Madame de Castellane. Le 12 janvier 1803, après avoir rendu compte de son installation au ministre des cultes Portalis et lui avoir loué le zèle de Monsieur de Castellane, Monseigneur Loison faisait son entrée solennelle à Pau. La visite présentait plus de risques étant donné le passé religieux récent de la ville et de sa région. Tout se passa pour le mieux, semble-t-il, car le journal officiel de la préfecture pouvait écrire « Les douces flammes de la charité succédaient aux torches ardentes de la discorde. Les mots de constitutionnel et d'insermenté ne frapperont plus nos oreilles. » En fait, on allait encore entendre ces mots. Mais cela, nous le verrons plus tard. De Pau, Monseigneur Loison se rendit à Tarbes, où le clergé Bigourdan s'était réuni pour le recevoir. Le clergé du diocèse de Tarbes était connu pour son grand nombre de défections en 1791. Monseigneur Loison enregistra de la part de nombreux prêtres constitutionnels l'adhésion au concordat et à sa personne. De retour à Bayonne, Monseigneur Loison pouvait s'estimer globalement satisfait de ses premiers contacts avec son clergé. Bien évidemment, quelques problèmes surgiront quand il s'agira d'organiser le diocèse et de nommer des titulaires aux divers postes. Pour l'instant, ce qui ennuie Monseigneur Loison à son retour à Bayonne, ce sont ses conditions de logement. Elles sont en effet déplorables. L'ancien palais épiscopal avait été vendu comme bien national et appartenait à des particuliers. Après quelques tâtonnements sur le choix d'une maison, l'évêque alla loger à la maison Godefroy, au 15 de la rue des Prébendés, sans doute à l'emplacement actuel du presbytère de la cathédrale, une maison qui avait été la résidence d'un courrier de la Poste aux Lettres de Bayonne à Bordeaux. Son seul avantage était sa proximité de la cathédrale. Monseigneur Loison s'y trouvait et y était effectivement très à l'étroit. Il ne cessera de s'en plaindre. En 1808, il va en aviser l'empereur qui se trouvait alors au château de Marac. Napoléon signa même un décret pour l'achat de la maison des Hulots à la place Notre-Dame, achat qui ne put se réaliser. Le 1er février 1812, Monseigneur Loison approuva un projet de construction d'un évêché dans les cloîtres de la cathédrale. Le projet fut transmis au ministère des Cultes, mais il n'eut pas de suite, fort heureusement. Durant tout son épiscopat, Monseigneur Loison dut se contenter de conditions de logement difficiles, car ce n'est qu'en 1819, donc à la fin de l'épiscopat de Monseigneur Loison, que l'État fit l'acquisition de l'ancien évêché et le réserva au logement de l'évêque. Le successeur de Monseigneur Loison allait en bénéficier. En désignant l'église Sainte-Marie comme cathédrale de l'évêque de Bayonne, le cardinal Caprara demandait à son futur titulaire, et ici je cite, « si elle avait besoin de réparation » et si elle manquait totalement ou n'avait pas assez d'équipement liturgique pour des cérémonies pontificales convenables et pour l'exercice du culte divin, de veiller avec soin à lui fournir le nécessaire sur ces deux points. » Fin de citation. Le conseil n'était pas superflu. Une sacristie vidée de ses ornements et de ses vases sacrés, une statuaire démolie à coups de pic, la voûte effondrée au-dessus de la porte nord et les gravats encombrant le sol, la cathédrale se trouvait dans un piteux état. Il fallut faire appel à nouveau à la charité et à la générosité des fidèles. En 1808, Mgr Loyson écrivait à l'empereur pour lui décrire l'état de dénuement extrême de la sacristie. Il pouvait cependant ajouter que des travaux d'urgence avaient permis l'état de sûreté et de décence dans lequel on voyait cependant cette église. La municipalité ne voulait pas s'en occuper, estimant que cette charge incombait aux trois départements qui constituaient le diocèse de Bayonne. Il faudra attendre encore quelques décennies pour que soit entreprise et menée à bien une restauration complète de la cathédrale. Nous verrons la prochaine fois comment le diocèse de Bayonne fut organisé sur le plan administratif.